Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Martin Hirsch, directeur général de l'APHP, assistance publique, hôpitaux de Paris. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Martin Hirsch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et à mes côtés pour vous interroger pour cette dernière émission de 2020. Marion Mourgue du Figaro, bonjour Marion.
Bonjour.
Et Amélie Carouer de TF1 LCI, bonjour Amélie. Bonjour. Cette émission est bien sûr en direct. Jusqu'à 13h, vous pouvez envoyer vos questions via les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Et elles seront relayées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad dans Questions Net. Alors Martin Hirsch, vous êtes un grand patron un peu particulier puisque chaque année passe en quelque sorte entre vos mains 8,3 millions de Français dans les 39 hôpitaux de Paris et d'Île-de-France. Des chiffres qui donnent le tournis, vous gérez un budget de 7,5 milliards d'euros par an et vous êtes le premier employeur francilien avec 100 000 personnes. Médecins, infirmières, infirmiers, aides-soignants, aides-soignantes qui sont si précieux dans la période que nous traversons. Leur tâche est tout sauf évidente, tout comme la vôtre. Vous-même, Martin Hirsch, vous avez voulu être médecin, mais au bout de 6 ans d'études, vous avez préféré arrêter. L'ENA vous attendait et le gouvernement Fillon entre 2007 et 2010 comme haut-commissaire aux solidarités actives. Je n'avais pas le sens du diagnostic, avez-vous dit récemment au Figaro, à Marion Mourgue ici présente, pour justifier votre changement d'orientation, d'abandon de la fac de médecine. Et justement, cette carence, Martin Hirsch, dans le diagnostic, n'est-ce pas aussi ce qui vous a manqué quand vos personnels de santé vous ont alerté, vous ont dit combien ils avaient mal à leur hôpital des mois durant, tandis que les effectifs ne cessaient de baisser avant d'être percutés de plein fouet, tout comme vous, par la pandémie. Nous en parlerons dans cette émission, nous reviendrons sur le passé parce qu'il le faut. Une pandémie dont nous ne sommes pas sortis, nous avons franchi la triste barre de 60 000 morts et le pire est-il vraiment derrière nous? Première question, elle vous est posée par Amélie Carouer.
Donc le Pays de Galles avance son reconfinement, Martin Hirsch, avant Noël, sans attendre. Même chose pour Londres, le sud-est de l'Angleterre. C'est simple comme question, est-ce que c'est ce qui nous attend? Mais plus encore, est-ce que c'est ce que nous devrions faire aujourd'hui en France?
D'abord, rebonjour et je suis heureux qu'on revienne sur les sujets qui peuvent concerner effectivement toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'hôpital, qui vont travailler dans les jours qui viennent, qui sont en ce moment à prendre en charge des malades, à préparer la vaccination, à s'occuper non seulement des patients Covid et des autres patients qui ont d'autres maladies que le Covid. Alors, on va aller directement à votre question. Dans beaucoup de pays d'Europe, il y a un redémarrage de la dynamique de l'épidémie, de la dynamique du virus, plutôt plus accentuée dans certains pays d'Europe, dont le sud de l'Angleterre, qu'il n'est en France, même si la situation est différente d'une région à l'autre en France, dans des situations dans lesquelles on n'est pas dans un redémarrage brutal. On a connu depuis le début novembre jusqu'à début décembre une baisse régulière grâce aux mesures qui ont été prises et grâce à l'application des Français à bien suivre les mesures. On a vu ensuite une stabilisation avec une augmentation dans certaines régions qui est encore, si je puis dire, maîtrisée, donc nécessite pas de mesures urgentes dans les jours qui viennent.
Donc vous dites non pour la France, pas nécessaire de faire comme certains de nos voisins, de reconfiner et dès maintenant.
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les choses sont encore maîtrisées. Mais tout le monde se pose des questions. Ça dépendra, ce qui va se passer après dépendra de ce qui se passe dans les prochains jours. On sait d'ores et déjà, je discutais avec par exemple mes homologues des Hauts-de-France, du nord de la France, qui savent qu'ils vont avoir beaucoup plus de patients dans les 10 ou 15 jours qui viennent. On n'a pas intérêt à se débrider pendant la période qui vient.
Alors justement,
on a intérêt à se réjouir sans se contaminer.
Exactement, Marion.
Quand on voit nos pays voisins, est-ce qu'on ne joue pas avec le feu? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement annuler, en tout cas conseiller aux Français de ne pas faire les fêtes de Noël? On sait que c'est des lieux de contamination, les repas.
Et vous avez vu, je pense pas qu'on joue avec le feu, je pense qu'on ne joue pas et qu'on est extrêmement sérieux sur des choses qui sont extrêmement délicates. Pour parler clair, ça fait 10 ou 11 mois qu'il y a des contraintes et qui sont des contraintes fortes. Moi, je discutais avec des personnels soignants qui expliquent qu'ils n'ont pas vu leurs parents en province depuis de nombreux mois. Je pense qu'on peut avoir à la fois des comportements qui permettent de voir ses proches sans se mettre en situation de se contaminer et de transformer le virus. Donc il y a une différence entre se regrouper en grappes très nombreux, comme d'habitude, et d'avoir une sorte de Noël un peu sous contrainte.
Très concrètement, ouais. Si ça table, est-ce que c'est encore trop, par exemple ?
Non, si ça table, ça n'est pas encore trop, et on sera, je pense, assez nombreux en France à être si ça table.
Vous serez combien, vous, Martin Hirsch, chez vous pour Noël ? Est-ce que vous serez plus de 6 ou en dessous de 6 ?
Moi, je serai en dessous de 6, mais moi, je serai en dessous de 6 à Noël, et je serai le 31 décembre et le 1er janvier dans les hôpitaux à faire le tour des hôpitaux.
Mais oui, mais parce que c'est une question qu'on vous pose aussi personnellement, parce que les Français ont besoin de savoir exactement.
Oui, 6, on moi, je serai en dessous de 6 à Noël, mais je serai 6 tout à l'heure avec mes 3 enfants. Voilà. Donc,
parce que le professeur Fontané dit dans le journal dimanche ce matin, on va payer Noël, on va payer ces fêtes de famille. C'est inquiétant quand on lit ça.
En gros, c'est une fatalité, il faudra juste l'assumer.
Non, attendez. Le virus est inquiétant. La situation, et je pense que tous nos auditeurs le savent, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, sont inquiets depuis de longs mois. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas avoir des sortes d'interdictions et de consignes tellement strictes qu'elles ne seraient plus du tout respectées. Donc l'appel à la modération, c'est exactement la même chose quand on dit que l'appel à la modération face à l'alcool, qui est encore vrai pour les fêtes, donc il faut de la modération et du bon sens.
Mais vous parlez
moi,
de
je
bon
crois
sens,
au bon sens.
Quand vous et voyez nous, le président qui est autour de la table avec une douzaine de personnes qui devraient peut-être donner l'exemplarité, est-ce que justement il s'est mis dans une position indélicate ?
Ben, il s'est mis dans une position, on ne sait pas dans quelles conditions il s'est contaminé. Il s'est mis dans une position dans laquelle la première chose qu'on fait, c'est de lui souhaiter des bons vœux de rétablissement. Et voilà, c'est ça le premier souhait pour lui, comme pour l'ensemble des Français. Il s'est mis dans la position d'être un Français comme les autres, comme il l'a dit, j'ai trouvé ça dans sa vidéo, dans laquelle il dit, moi j'ai fait extrêmement attention, chaque fois que je l'ai vu ces derniers mois, je l'ai vu avec un masque et avec une certaine distance, parfois avec une difficulté quand on est président de la République, parce que quand on vient dans les hôpitaux, il y a tout le monde qui veut se rapprocher de lui pour lui dire quelque chose, pour se faire photographier à côté de lui.
Donc il y a pas une exemplarité du président de la République.
S'il y a une exemplarité de nous tous, on essaye d'être exemplaires. Je pense qu'on est à la fois, on fait le maximum pour être exemplaires. Et on a à la fois les mêmes difficultés que les autres Français. Voilà. Tout le monde a cette difficulté d'essayer de le faire, puis d'avoir un moment où on peut être un peu tenté d'être un peu plus proche des uns et des autres. Il faut résister à cette tentation.
Donc vous appelez à la modération
mais du
des Français.
Coup, voilà, la modération, le sérieux, le bon sens. Voilà. Et notamment, je pense qu'il y a une différence entre dire peut-être que ça va vous faire du bien dans les mois qui viennent d'avoir pu passer quelques heures un peu à distance, mais avec vos proches, comme ici on le fait aussi à distance, pour que tous les Français nous écoutent. On n'a pas mis de masque pendant cette heure-là, mais on s'est réfrigéré, on a etc. etc. Mais effectivement, parce qu'on a, on souhaite que ce message-là soit entendu, donc qui est un message de grande attention. Je redis le mot bon sens, qui est quand même un bon sens près de chez vous.
Mais est-ce qu'en même temps, il ne faut pas qu'il y ait des moyens techniques d'appréciation du virus américain ?
Autre question concrète, les tests. On est un peu perdu à nouveau. Certains médecins sur nos plateaux disent qu'il faut absolument se faire tester avant Noël. Le conseil scientifique dit oui, mais bon, pour certaines personnes. Olivier Véran dit que ce n'est pas un totem d'immunité. On fait quoi ?
Alors, on va redire les choses. Les tests sont efficaces. Les tests sont efficaces pendant une certaine période, donc vous pouvez avoir été testé négatif un jour alors que vous avez été en contact avec quelqu'un de positif qui vous a transmis le virus deux ou trois jours avant
et le lendemain, vous serez peut-être positif. Donc, négatif un jour ne veut malheureusement pas dire négatif toujours. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. Le fait d'être testé négatif peu de temps avant de voir d'autres personnes réduit la probabilité d'être très contagieux. Donc, moi, ça m'arrive de me faire tester. Effectivement, quand je suis testé négatif, je n'ai jamais été testé positif. Quand je suis testé négatif, je sais que la probabilité que je sois contagieux est extrêmement faible. Pour autant, je mets le masque et pour autant, je n'utilise pas ça, comme dit Olivier Véran, comme un totem d'immunité pour dire je me balade, je fais la bise, je ne fais plus attention, je continue à me laver les mains, etc. C'est cela. Donc ça donne une information, qui est utile,
Mais qui
c'est pour ça que les
qui peut se périmer très vite,
qui peut se périmer, qui est relative, parce que là aussi on peut avoir des faux tests négatifs. Les tests sont de plus en plus performants. Les tests rapides ont rendu service à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, la proportion de ceux qui utilisent ces tests rapides augmente chaque jour. Et ils sont quasi aussi performants que les autres.
Est-ce qu'il ne faut pas s'auto-confiner tout de suite pour ceux qui nous écoutent et nous regardent? Est-ce que vous leur dites, bon, ben voilà, vous allez passer Noël en famille, pas plus de 6, c'est ce que vous dites, faites-le, mais avec modération. Est-ce que vous leur dites, voilà, restez chez vous, ayez le moins d'interactions sociales dès maintenant?
Mais on se dit d'abord, il faut tous les jours le moins d'interactions sociales possible.
Et encore c'est moins ça, maintenant ou pas?
Tous les jours.
Mais quand vous voyez les grands magasins, par exemple, quand encore ces derniers jours, est-ce que justement ça va avec ce que vous appelez comme bon sens et comme modération?
Alors, quand on voit les grands magasins ou le fait, effectivement, samedi, je suis moi aussi sorti, on voit effectivement énormément de monde. Quand on a vu énormément de monde, il est plus dangereux de se retrouver quelques jours après sans masque au milieu de proches, notamment quand ils sont fragiles. C'est ça le sens. Donc, pour parler clair, beaucoup repose sur la manière dont on est capable soi-même de mesurer le risque de la même manière que dans d'autres activités quotidiennes. Et je pense avec ce virus avec lequel on vit depuis 10 mois, il ne faut pas non plus dire des choses qui sont contraires à ce qu'on dit. Quand on dit « faites attention quand vous conduisez, faites attention quand vous traversez, faites attention quand il y a les épidémies de grippe, faites attention aussi aux plus fragiles », il faut faire attention avec le virus. Oui. Et plus on est en proximité de gens fragiles, plus il faut avoir fait attention avant, et plus il faut porter le masque, et moins il faut rester longtemps avec le masque enlevé en proximité forte.
Voilà. Sauf qu'il y a des informations complémentaires qui nous arrivent et qui inquiètent davantage les Français.
Oui, parce que j'ai évoqué en début d'émission le cas de l'Angleterre, mais ce qui inquiète surtout là-bas, c'est la mutation d'un virus qui accélère la propagation de ce virus. Peut-être. Il n'est pas dit qu'il soit plus mortel. Il n'est pas dit à 100% sûr qu'effectivement il soit plus contagieux, mais visiblement ça inquiète suffisamment. Le Pays-Bas a trouvé cette souche. Est-ce qu'en France, vous l'avez constaté, est-ce que ça, c'est chez nous?
À ma connaissance, en France, on ne l'a pas encore trouvé.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que cette forme de virus n'ait pas commencé à atteindre la France. Moi, j'ai l'expérience des crises sanitaires quand les frontières sont poreuses. Donc, il y a forcément des contacts et il est possible qu'on ne l'ait pas encore vu. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on ne l'a pas encore repéré, c'est que s'il a commencé à circuler en France, il doit circuler de manière très faible.
Alors, ça veut dire,
excusez-moi, parce que vous étiez inquiet.
Non, mais enfin,
je pense même qu'aucun laboratoire de France ne l'a encore détecté, à ma connaissance. Voilà, j'ai passé quelques coups de fil ce matin pour vérifier. Mais je reviens sur votre inquiétude.
Et celle de beaucoup d'autres.
Mais cette inquiétude est extrêmement saine. Voilà. Parfois, la peur est le début de la sagesse. Donc, ça permet de réaffirmer qu'effectivement, ce virus peut prendre différentes formes. Jusqu'à présent, vous rappelez, moi, je me suis élevé contre ceux, il y a quelques mois, qui expliquaient qu'il y avait des virus beaucoup plus gentils qui circulaient, ce qui n'était pas le cas. Il peut y avoir des virus qui peuvent devenir encore plus dangereux que ceux qui sont. On n'a pas de certitude sur la forme anglaise. Il est difficile de dire si la circulation plus forte du virus et la remontée plus forte de l'épidémie en Angleterre
est due aux caractéristiques de ce virus qui a changé ou au comportement de cette région d'Angleterre.
Alors justement, sur les frontières, Marion.
Mais vous en parliez, il peut arriver, il faut faire attention.
Est-ce que vous allez jusqu'à demander au gouvernement d'essayer de fermer les frontières, puisqu'on voit que les Pays-Bas ont pris cette mesure vis-à-vis de l'Angleterre? Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour essayer de ne pas avoir cette mutation?
La Belgique vient de l'annoncer.
Voilà,
la Belgique
vient de l'annoncer. Et l'Allemagne l'envisage.
Écoutez, moi je vais rester à ma place d'avoir la responsabilité des hôpitaux et laisser les scientifiques...
Vous pourriez avoir un conseil?
Non, je préfère que les conseils soient donnés par les scientifiques. Si je peux prendre une seconde là-dessus, justement, dans cette crise dans laquelle chacun sort de sa place pour expliquer ce qu'il faudrait faire, pas faire, un jour dire quelque chose, le lendemain, moi je m'astreins à une position qui est sur ces données scientifiques, qui est de savoir si ce virus, cette nouvelle forme observée en Angleterre et qui peut franchir les frontières, impose des mesures nouvelles. Bon. Demandons aux scientifiques collégialement d'avoir les informations, de regarder si le virus a commencé à circuler, quelles sont ses caractéristiques réelles, est-ce que ça change la donne ou pas.
Enfin,
mettons un peu d'ordre. Si on peut finir 2020 et démarrer 2021 sans éviter la cacophonie où chacun vous donne son avis sur ce qui sur lequel il n'a pas une expertise profonde, je ne suis pas le spécialiste de ce nouveau variant et donc je ne vais pas m'ériger en nouveau spécialiste.
Justement, vous parlez d'éviter la cacophonie, Martin Hirsch. Tout le monde s'accorde visiblement à l'arrivée d'une troisième vague. Voilà ce qu'on nous dit. C'est même plus un soupçon, c'est une certitude. Ce matin, dans le journal du dimanche, une étude du CHU de Nancy est révélée. Elle arriverait cette troisième vague dès le 7 janvier avec un rebond en réanimation proche du pic de la deuxième vague, voire selon les hypothèses les plus pessimistes, au niveau du pic de la première vague en avril. Donc ce sont des chiffres alarmistes. Est-ce que vous vous préparez dans les 39 hôpitaux parisiens et franciliens à cette troisième vague? Quand arrivera-t-elle et peut-être est-elle déjà là?
Alors, d'abord, un petit rappel pour dire que c'était sur cette antenne de RTL, au moment où personne ne croyait à la deuxième vague, que je suis venu dire que la deuxième vague pouvait être pire que la première, vous vous rappelez?
Tout à fait.
Et on constate effectivement qu'on a eu au moins autant de morts pendant la deuxième vague que pendant la première vague. En fait, la deuxième vague, on n'en est pas encore sorti. Je crois que d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, il a totalement raison, Olivier Véran, d'avoir dit cela. On ne connaît pas la même période post-première vague que celle qu'on a connue en juin 2020, où effectivement les contaminations étaient rarissimes. Je le vois d'ailleurs, nous, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on suit, et on suit bien évidemment les contaminations de nos personnels, parce que c'est une population qu'on suit de près, et à laquelle on essaye de faire attention, et qui a la caractéristique un peu d'avoir la même vie que les autres Français, même s'ils travaillent beaucoup, et que pendant qu'ils travaillent, ils ont le masque. Au mois de juin, on était redescendu où le nombre de contaminations par mois était de l'ordre de 10 ou 20. Là, on est encore à 200 par semaine qui se contaminent. Donc, on n'est pas sorti de la deuxième vague. Mmh. Voilà. Est-ce que cette deuxième vague peut avoir une deuxième bosse? La réponse est oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Les choses sont assez logiques. Hein. On avait dit que ça serait bien de redescendre à 5000 contaminations.
On n'y est pas.
Et on n'a pas réussi. Ça montre que le virus circule toujours à un niveau dans lequel il peut se réallumer rapidement.
Mais quand est-ce que vous voyez cette deuxième bosse, justement? Pardon. Cette deuxième bosse, vous la voyez quand, Martin?
Alors, ça va dépendre des régions. Mm-hmm. Nous, on voit aujourd'hui, si vous voulez, pour vous donner des ordres de grandeur. Mm-hmm. Encore une fois, au début de l'été, le nombre d'entrées qu'on avait par semaine en réanimation était de quelques unités. Début novembre, on en avait 100 entrées en réanimation par jour. Aujourd'hui, on est à entre 30 et 40. Je parle de l'Île-de-France. Oui. Hein, je parle de l'ensemble des députés d'Île-de-France dans lesquels l'AP représente à peu près un tiers. Donc vous voyez, on est encore dans une activité soutenue. Si on repasse à 60, 70, qui peut être le cas compte tenu du fait que effectivement la période de Noël, comme la période de rentrée de septembre, avait été une période de perturbation. Le niveau auquel on montera dépendra à la fois du comportement du Français et de savoir si, après les fêtes,
on remettra des mesures de restriction pour tenir compte de l'augmentation.
Vous pouvez, bien sûr. Ce n'est pas une troisième vague, mais une bosse de cette deuxième vague.
Ce n'est pas pour faire des jeux de mots sur troisième vague, c'est juste pour expliquer qu'on n'est pas dans un état dans lequel on est redescendu et on attend quand ça remonte. On est resté à un niveau assez élevé.
N'est pas du tout légère, mais quelle que soit la nomination, est-ce que ça veut dire troisième confinement à la clé, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a que ça qui fonctionne. On voit l'exemple de la Suède, ils n'ont pas voulu le faire, ils sont obligés de le faire maintenant. Est-ce que c'est ce qui nous attend malgré tout ?
Ça peut vouloir dire de reconfiner, oui. Et encore une fois, je ne fais pas le devin. Je dis juste qu'il vaut mieux stopper plutôt que de monter trop. Pourquoi ? Parce que quand on monte trop, les mesures de freinage sont, elles, encore plus douloureuses, elles sont moins efficaces. Et par ailleurs, je suis exactement dans la ligne, j'ai aucun problème ce qu'explique Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qu'on a 3 à 6 mois, et probablement plutôt 6 mois, qui sont encore compliqués, pendant lesquels l'après se prépare, notamment grâce au vaccin qui va changer la donne, probablement grâce au progrès qu'on va faire aussi sur l'usage des tests. Donc on va, dans les mois qui viennent, avoir des bonnes nouvelles qui vont nous aider à vivre, à supporter et à moins avoir besoin du confinement de temps en temps.
On va y venir sur la vaccination.
Pardon, je reviens juste sur cette raison du confinement. Si on voit le virus recirculer dans les jours qui viennent, parce que, comme on l'a dit, on n'a pas enfermé les gens en leur interdisant d'aller voir leurs proches pendant Noël. Et donc, si ça a un effet, on verra cet effet dans quelques jours, on le verra à la fin de l'année. Peut-être qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, avoir 15 jours, beaucoup de télétravail, peut-être un peu moins d'école ou de lycée, quoi, pour laisser les gens, pendant la première quinzaine de janvier, ne pas avoir l'effet multiplicateur. Plutôt que d'avoir encore des semaines d'incertitude.
Donc vous nous dites clairement, Martin, c'est-à-dire on passe les fêtes, on est prudent,
j'essaye de l'être,
et on reconfine quelque part avec un reconfinement allégé, mais qu'on a déjà eu, les 15 premiers jours de janvier. C'est un peu votre préconisation.
Non, je ne suis pas au niveau de la préconisation. Pardon, soit
oui,
un soyons précis. Je dis tout à l'heure qu'il ne faut pas que chacun fasse ses préconisations dans son sens. Je suis dans le moment où j'essaye d'expliquer les raisonnements qu'on peut faire. Les raisonnements qu'on peut faire, c'est de dire si... Et ce raisonnement est vraiment majeur. On n'a pas envie d'attendre que ça soit monté trop haut pour pouvoir bloquer, parce que dans ce cas-là, quand on bloque trop longtemps et on bloque à un moment qui est dans lequel on passe ces jours et ces nuits à se demander si on pourra prendre en charge tous les patients.
Vous vous attendez à un afflux de patients dans les hôpitaux français.
Afflux est un mot un peu fort. Bon.
Non, mais je vous entends.
On s'attend à ce que le nombre de patients réaugmente, s'est stabilisé et dans les réanimations et dans les lits d'hospitalisation classiques. On s'attend à ce qu'il réaugmente, parce qu'aujourd'hui, on est sur un plateau qui augmente un peu. Ça va probablement s'accélérer, même si les uns et les autres sont le plus précautionneux possible. Mais soignez-le encore plus que vous ne pensiez l'être, parce que si vous l'êtes encore plus, vous protégez vos proches et vous protégez votre mois de janvier, votre mois de février.
On entend que justement cet afflux de patients, en tout cas le terme est un peu fort, mais qu'il y a une petite bosse qui se prépare. Est-ce que vous avez des instructions du ministère de la Santé pour préparer cette bosse qui semble inéluctable du fait des voyages des Français d'une région à l'autre? Est-ce qu'il y a déjà un plan pour anticiper et organiser un peu la suite?
Et en fait, on n'a pas besoin qu'on nous le dise, si je peux dire un mot là-dessus.
Mais en même temps, la seconde vague, on n'avait pas besoin qu'on nous le dise et
on s'y est préparé. Mais non, mais bien sûr que non, on ne l'a pas prise de face, la deuxième vague. On l'a prise en s'y étant préparé. On a organisé les choses, et on a organisé les choses en plus différemment de la première vague. On a organisé les choses, et c'est pour ça que on a... vous vous rappelez, je suis venu dire la première chose qu'on fait avant qu'on parle de deuxième vague, de dire on va demander à nos personnels de ne pas prendre les vacances de la Toussaint. Oui. On n'était pas là en se tournant les pouces et en regardant, mettant les pouces derrière les bretelles pour attendre ce qui se passe. Mais bien sûr que non.
Alors,
Attendez, on ne l'a pas prise de face.
On vous a
entendu. Et on ne prend rien de face. Et on suit ces indicateurs précisément. Il se trouve juste que je suis un peu mesuré dans ce que je dis pour coller aux réalités et pas passer d'un truc super apaisant, ne faites rien, un truc super alarmiste. Je dis, voilà, ça remonte. Mmh. On s'y prépare et on veut, comme pendant la deuxième vague, depuis qu'elle a démarré, c'est-à-dire depuis fin septembre ou mi-septembre, faire en sorte qu'on puisse soigner tous les patients. La grande, si je puis dire, satisfaction des soignants pendant cette période, c'est qu'ils ont pu, et on le voit, je ne peux pas montrer des courbes là, mais on a pu, pendant cette période de deuxième vague, bien que sur toute la période, elle était d'une intensité comparable à la première vague, continuer à soigner outre les maladies.
C'est important de soigner.
En ajustant au
on va y venir aux déprogrammations. Mais sur les, vous dites, l'hôpital est prêt, a toujours été prêt. Est-ce que vous aurez le nombre suffisant de soignants pendant cette période des fêtes pour justement prévenir cette nouvelle bosse de cette deuxième vague dont, que vous craignez? Est-ce que vous aurez suffisamment d'effectifs ou est-ce que vous êtes confronté aussi à la prise de vacances ou de personnel épuisé qui parfois ont pu prendre des congés maladie?
Ou des congés de vacances.
Tout à fait.
Moi, je regarde. Dans nos hôpitaux, les personnels ont en moyenne 9 jours de vacances en retard par rapport aux années habituelles. Ils ont plus travaillé. Et je ne vous compte pas le nombre d'heures. Non seulement ils ont pris moins de jours de vacances, mais ils ont fait beaucoup plus d'heures de travail. Voilà. Pendant les vacances de Noël, traditionnellement, il est rare qu'on vous dise, si vous devez changer votre prothèse du genou, qu'on vous dise on va vous opérer le 27 décembre. Parce qu'on respecte à la fois les vacances des soignants et les vacances des patients, si je puis dire. Donc, pendant cette période-là, l'activité dite programmée, voilà, ce qu'on sait prévoir à l'avance, est plus faible. Les vacances sont calculées pour qu'on puisse prendre en charge des patients. J'espère qu'il n'y aura pas à annuler au dernier moment. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est plutôt à faire en sorte que tous les cadres des équipes, tous les chefs de service organisent le fait que leurs équipes puissent prendre quelques jours. Ce n'est pas le moment où on prend 15 jours consécutifs, c'est plutôt le moment où on prend quelques jours de repos qui sont bien mérités et on fera tout pour concilier. Priorité, c'est on prend en charge les malades et ça ne souffre pas de discussion. Donc, et deuxième priorité, pour bien les prendre dans les mois qui viennent, on prend quelques jours de repos.
On va écouter tout de suite la question en plus qui porte sur la souffrance psychique des soignants et des Français. C'est un psychologue du Kremlin-Bicêtre, de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui vous la pose.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Monsieur Hirsch, François Radiguet, je suis psychologue, coordonnateur du Collège des psychologues de Bicêtre. Dans le cadre de la crise sanitaire, les psychologues de la PHP ont mis en place des dispositifs innovants permettant la prise en charge de la détresse psychique. Et nous sommes en contact direct et quotidien avec les patients ainsi qu'avec leurs familles. Le Ségur de la Santé a permis une revalorisation des salaires de la PHP, mais pourquoi les psychologues ne sont-ils pas concernés par la revalorisation spécifique des personnels en contact direct avec les patients ?
Martin Hirsch, pourquoi les psychologues sont-ils un peu les mal-aimés de l'hôpital ou en tous les cas les moins bien considérés que les autres alors que les ministres nous disent eux-mêmes qu'il y a une détresse à l'hôpital et chez les Français?
Alors les psychologues ne sont pas les mal-aimés de l'hôpital. Vous avez vu que notre interlocuteur a commencé par rappeler qu'ils avaient et qu'ils jouaient un rôle très important à la fois vis-à-vis de leurs collègues et vis-à-vis de leurs patients. Les psychologues touchent cette augmentation de salaire que touche tous ceux qui travaillent à l'hôpital de 183 euros par mois. Il se trouve que par ailleurs, il y a une revalorisation pour les infirmières de 35 euros qui ne touche pas les psychologues, qui ne touche pas d'autres métiers de l'hôpital.
Les psychologues n'ont pas eu. Pourquoi ?
Qui concerne les infirmières, parce qu'il y a une mesure pour tous et il y a ensuite un retravail, j'allais dire, carrière par carrière. Et nous avons négocié, j'espère qu'on y reviendra, avec l'ensemble des équipes pour mettre à l'assistance publique des mesures qui puissent concerner tout le monde.
On va y revenir la seconde partie de l'émission, on verra si les psychologues ont été rassurés par vos propos. On parlera notamment aussi des déprogrammations que vous avez dû faire dans les hôpitaux pour accueillir les malades du Covid. On se retrouve dans quelques minutes pour ce grand jury de Martin Hirsch. À tout de suite.
Prime Énergie, Ma Prime Rénov, Crédit d'impôt. Vous avez un projet de rénovation énergétique, mais vous vous sentez perdu ? Hello Helio,
Elio s'occupe de tout pour vous. Travaux, gestion administrative, obtention des aides, vous n'avez rien à gérer et parfois même rien à avancer. Alors, Elio les économies, Elio la simplicité, Elio Elio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur elio.com, HE2ELIO, ou appelez le 3220 et dites Elio. Service gratuit plus prix d'un appel. Conditions d'éligibilité et de ressources sur elio.com.
Bonjour, c'est de nouveau le frère Yves Combeau. Si le jour du Seigneur existe depuis 70 ans, c'est aussi grâce à votre soutien. Aidez-nous à continuer en faisant un leg. Cela veut dire que le jour où vous ne serez plus là, votre patrimoine peut aller au jour du Seigneur. Il restera quelque chose au-delà de vous qui permettra à d'autres de garder un lien avec l'Église.
Renseignez-vous sur le leg auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013, Paris.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô patron, on les arrête plus.
Lidl ?
Eh ben oui, dès demain, les deux pavés de saumon ASC avec peau et sans arête sont à 4,49€ les 280 grammes.
4,49€ les deux pavés de saumon.
Ah oui, et ils sont à moins 16%.
Là t'arrêtes.
Sans arête, oui, je suis mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 16,04€ le kilo, élevé en Norvège, offre valable jusqu'au mardi 29 décembre. Retrouvez en permanence du poisson sauvage MSC, frais et surgelé, et découvrez nos poissons ASC issus de l'aquaculture responsable. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Pour Noël, offrez des livres XO.
Le mystère de la main rouge d'Henri Lovenbruck. Après Le loup des Cordeliers, la nouvelle enquête de Gabriel Joly au cœur de la Révolution française. Haletant et passionnant.
La vallée de Bernard Minier. Une nouvelle enquête de Servaz dans une vallée coupée du monde. Un thriller plus oppressant que jamais.
XO, lire pour le plaisir.
RTL, 12h30. Les infos, Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Myriam, bonjour à tous. L'Allemagne envisage sérieusement de suspendre ses vols en provenance du Royaume-Uni. Une décision déjà prise par la Belgique et les Pays-Bas après la découverte par les autorités britanniques d'une variante du Covid-19. Une nouvelle souche plus contagieuse et hors de contrôle, d'après le ministre britannique de la Santé. Dans l'Hexagone, pas encore d'éléments sur cette nouvelle souche. Aucun laboratoire français ne l'a encore détectée, assure Martin Hirsch, directeur de l'APH. Invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 17 565 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en moins de 24 heures. Martin Hirsch estime que la France n'est pas encore sortie de la deuxième vague et appelle à la modération et au bon sens pendant les fêtes. À 11 jours de la date officielle du Brexit, les négociations se poursuivent. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne reste possible, en cause notamment un éprouvant bras de fer sur les conditions futur de la pêche dans les eaux britanniques. Un attentat à la voiture piégée à Kaboul a fait au moins 8 morts et une quinzaine de blessés. Des femmes et des enfants font partie des victimes, ont annoncé les autorités. D'après elles, cette attaque n'a pas encore été revendiquée. Martin Fourcade, sacré meilleur sportif français de l'année 2020. Résultat du sondage Odoxa pour RTL et Winamax. Le biathlète avait mis un terme à sa carrière de la plus belle des manières en février dernier en reportant 2 titres de champion du monde. Le footballeur Kylian Mbappé et le cycliste Julien Alaphilippe complète le podium. Le football est un choc de haut de tableau ce soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Lille reçoit le PSG à 21h. L'éventuel vainqueur prendrait la première place du championnat. Match à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. RTL, il est midi 32. Dans un instant, la suite du grand jury avec Benjamin Sportouche.
Parce que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps et que vous êtes impatient de retrouver vos familles à l'approche des fêtes, Allianz reste à vos côtés et vous accompagne pour une route en toute sécurité. Prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin des autres. Allianz, avec vous, de A à Z.
Skidamarink, c'est le tout premier roman de Guillaume Musso. 4 personnes qui ne se connaissent pas reçoivent chacune un morceau de la célèbre Joconde, assorti d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle de Toscane. Ainsi commence une enquête captivante et pleine d'inattendus qui vous emporte de page en page vers un final vibrant d'émotions. Pour Noël, offrez Skidamarink de Guillaume Musso aux éditions Calman Levy.
Promotion, réduction, trouver des bons plans prend du temps. C'est pourquoi l'appli de votre carte de paiement Gold American Express vous propose en permanence des offres de remboursement en ligne ou en magasin. Profitez de l'appui Gold des cartes Gold et de tous ses autres avantages. Carte gratuite les premières années, plus 80€ remboursés. Sans engagement, sans changer de banque. Offre et conditions sur americanexpress.fr/gold.
BMW.
BMW.
Gérer les rendez-vous, s'occuper des enfants, faire ses courses de Noël. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW Série 1 édition sport. Jantes 17 pouces, siège sport, projecteur LED, dès 295€ par mois. Découvrez-la avant le 31 décembre, ainsi que des offres exceptionnelles sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement. Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.
Exemple pour une BMW 1/16 édition sport avec majoration du premier loyer de 2600€, LLD 36 mois, 30 000 km dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr.
Bonjour, c'est Denis Brognard, parrain de la Fondation ARC. Le cancer reste aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Au sein de la Fondation, notre vœu le plus cher est de guérir plus de malades. Si on se mobilise, nous avons le pouvoir de faire progresser cette recherche pour permettre de guérir 2 cancers sur 3 d'ici 2025. Alors je compte sur vous. Donnez aux chercheurs les moyens d'agir en faisant un don sur donner.fondation-arc.org. Un immense merci à vous.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le directeur général des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Amélie Carouer de TF1 LCI. Avant d'en venir à l'état de l'hôpital à nouveau, et bien sûr on parlera vaccination, Martin Hirsch, il y a cette polémique à propos du professeur Perron. Vous avez mis fin aux fonctions du chef de service de l'infectiologue Christian Perron, non, qui était jusqu'ici, je le rappelle, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Pourquoi l'avoir fait? Certains estiment qu'il est aujourd'hui, c'est aujourd'hui une censure et que vous en faites un martyr.
Alors, un, il y a zéro censure. Deux, c'est une décision que j'ai prise avec le soutien de l'ensemble de la communauté médicale et plutôt poussée par la communauté médicale à mettre fin à la possibilité de voir quelqu'un s'exprimer tout en ayant la qualité de chef de service dans un grand hôpital comme la paix. Chef de service, ça veut dire une responsabilité sur l'enseignement des jeunes.
Qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne vous a pas convenu? Et peut-être avez-vous aussi le soutien du
ministre de la Santé. Qui ne m'a pas convenu à moi. Christian Perron, qui, il y a 15 ou 20 ans, était quelqu'un qui avait des positions tout à fait honorables et qui a beaucoup travaillé sur des sujets importants. On est venu à prétendre que à cause de l'hydroxychloroquine on avait tué 20 ou 25 000 personnes, que ses collègues faisaient n'importe quoi, donc il a accusé ceux de Nantes d'avoir tué un patient en leur donnant pas d'hydroxychloroquine, a accusé l'ensemble des réanimateurs d'être intéressés par l'argent et de considérer qu'on gardait le plus de malades possible pour gagner de l'argent, quoi, des choses qui sont des accusations qui sont gravissime, et on ne pouvait pas lui laisser des responsabilités. Donc il avait le choix entre garder ses opinions très personnelles pour lui-même. Donc on a d'abord saisi un collège de déontologie, on lui a envoyé l'avis en lui disant, voilà, là, vous dites des choses qui ne sont pas compatibles avec le fait de vouloir exercer des responsabilités auprès des jeunes.
Et vous avez porté plainte contre lui.
Et ensuite, l'ensemble de la commission médicale de la PHP m'a demandé de porter plainte devant le Conseil de l'Ordre, ce que j'ai fait. Et j'ai, après avoir recueilli les avis, avoir une procédure qui permet de mis fin à ses fonctions de chef de service, c'est-à-dire de responsabilité.
147 000 personnes ont signé une pétition en sa faveur.
Oui.
Est-ce que ce sont pour vous des complotistes, puisque c'est aussi ce que vous dénoncez dans votre dernier livre? Vous dites, voilà, il y a des comportements complotistes, un peu fanatiques, vous citez même le professeur Raoult. Qu'est-ce que vous répondez à ces 147 000 personnes?
C'est ça ce que je trouve préoccupant derrière le cas personnel de Christian Perron. C'est la manipulation dont sont victimes beaucoup de gens qui pensent que On est rentré dans une dictature dans laquelle, effectivement, le complot, le virus arrangerait les autorités gouvernementales, l'industrie pharmaceutique, etc., serait une invention. On pourrait très facilement y mettre fin. Et on a vu pendant une demi-heure tout à l'heure que les questions étaient un peu plus complexes que cela. Et on se rattache à des gens qui sont manipulateurs. Moi, ce que je reproche, et ce que l'assistance publique reproche à Christian Perron, c'est d'encourager cette manipulation, aller dans le film hold-up pour expliquer des choses qui sont manipulatrices, complotrices, et c'est pas la conception qu'on a de l'enseignement de la médecine et du comportement vis-à-vis de ses équipes et vis-à-vis des patients. Et voilà. Donc il n'y a pas de, vous y a pas de censure, il peut s'exprimer où il veut, sauf que quand il s'exprime, il n'engage pas ce qu'un chef de service engage quand il est à la télé ou à la radio.
Le professeur Raoult.
Il n'est pas un martyr, il est payé, il était libre de faire attention après les avertissements. Il choisit d'être parti dans ce type de comportement et de discours et de dénonciation de ses collègues. Juste deux secondes là-dessus, quoi. Moi, on a à la paix 10 000 personnes qui ont été contaminées par le virus. On a 5 personnes qui sont mortes parmi les personnels de l'AP. On a des gens, on le voyait tout à l'heure, qui n'ont pas pris leurs vacances. On y a des gens qui bossent 12 heures par jour pour essayer de soigner les gens. Et bien moi, je suis là pour les défendre. Je suis là pour leur défendre leur conception du soin, qui est celle de 99,9% des soignants et des médecins. Effectivement, j'ai une certaine colère quand j'entends qu'on puisse dire n'importe quoi et demander à dire n'importe quoi tout en ayant les titres, les qualités, les responsabilités qui s'attachent à des gens qui, eux, se défoncent pour aider les autres et pour aider les patients. Et je suis inquiet, je ne leur en veux pas, mais effectivement, quand je lis les messages dans lesquels on nous explique qu'on est en train de réinstituer le 4e Reich, je dis qu'il y a manipulation et qu'il faut dire stop.
Vous dites stop, est-ce que vous dites stop aussi au professeur Raoult? Vous êtes aussi très dur dans les propos que vous tenez à son endroit.
Pardon,
vous
c'est
une forme
lui
de populisme scientifique. Alors,
oui,
vous évoquez une forme de fanatisme de l'hydrochloroquine, qui est un fanatisme comme un autre, dites-vous, dans votre dernier livre, et vous parlez aussi de populisme scientifique. Est-ce qu'il fait du mal à la médecine, le professeur Raoult?
Je pense que globalement, celles et ceux qui, effectivement, font croire des fadaises aux Français et donne des visions totalement simplistes. Vous avez vu, en expliquant, il n'y aura pas de deuxième vague, le truc est fini, puis en fait, il n'est pas fini, et on trouve autre chose, et on va expliquer que c'est à cause... Voilà, ces choses-là embrouillent les esprits de tout le monde et posent des problèmes à un moment où on a besoin de totalement autre chose. On a besoin d'avoir un peu de confiance, on a besoin d'avoir du bon sens, on a besoin d'avoir de la modestie, on a besoin d'avoir du contradictoire, on a besoin de chercher des vraies solutions et pas de partir vers de mauvaises solutions. Et je parle du populisme parce que le populisme, c'est cela. Le populisme, c'est quand on flatte le peuple au lieu d'être exigeant vis-à-vis de tout le monde, exigeant intellectuellement. C'est pour ça que quelquefois, mes réponses sont trop longues.
Alors, justement, puisque vous parlez des soignants qui sont atteints du Covid, une question de Marion Mourlu.
Vous avez parlé de 10 000 personnels soignants contaminés par le Covid. Or, on a appris, le ministère de la Santé l'a reconnu, qu'un certain nombre de ces personnes contaminées continuaient de travailler. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des gens qui sont positifs soignent d'autres patients?
Alors, c'est pas ça ce qui se passe. Si vous voulez, quand vous avez, soit vous êtes cas contact, ou que vous êtes positif, ou que vous avez des symptômes...
En principe, on s'isole.
On s'isole et on s'arrête de travailler. Et ce que les comités scientifiques ont considéré, c'est qu'au bout de 7 jours, après ce moment-là, vous pouviez reprendre le travail sans avoir besoin de refaire un test.
Oui, certains nous disent
sans avoir besoin de refaire un test.
Sans s'être arrêté 7 jours.
Oui.
On a énormément de témoignages.
Chez nous, la règle, c'est effectivement qu'on s'arrête 7 jours. Soit médecin, infirmier, directeur, qu'on s'arrête 7 jours ou qu'on s'isole 7 jours.
Donc il n'y a pas de soignants qui ont le Covid et qui sont asymptomatiques et qui continuent à travailler sans s'être arrêtés auparavant. C'est ce que vous nous dites.
Ah oui, je suis à peu D'accord. près sûr bah, de cela.
C'est clair, en tout cas, c'est ce qu'on recommande. Parce que dans d'autres hôpitaux de France, ce n'est pas le
ensuite,
cas.
Ensuite, il peut y avoir...
Parce qu'il y a du manque de personnel, voilà ce qu'on nous dit.
Ah non, alors là, pardon, non. Il peut y avoir une situation d'une personne qui a voulu retravailler et on n'a pas pu la convaincre d'eux. Mais il n'y a personne qu'on va chercher pour leur demander de faire... de combler les manques de personnel par cela.
Voilà. C'est dit. Alors, il y a une autre question qui se pose avant qu'on en vienne aux vaccinations, Amélie.
Combien de déprogrammations d'opérations hors Covid depuis le début de la crise? Et je vais poursuivre ma question, elle va être un peu terrible. Est-ce que vous savez combien de décès sont liés dans vos hôpitaux à l'absence de soins, à la déprogrammation de soins en raison du Covid?
Alors, il y a eu une déprogrammation très très forte au printemps, hein, pratiquement 80% de déprogrammation. Les 20% qui restaient, c'était les opérations après les urgences, c'était les greffes d'organes, c'était des opérations extrêmement urgentes, mais le reste ne se faisait pas entre début mars et mi-avril ou fin avril même. Donc ça, très importante. Très grande différence pendant le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Là, les chiffres s'inversent. On a à peu près 15-20% de déprogrammation et 80% d'intervention chirurgicale ou de séjour médical pour autre chose que le Covid qui sont maintenus. Et ça, ça a été une exigence près des personnels de travailler énormément pendant cette période pour pas compromettre les chances, parce que une fois c'était déjà compliqué et ça s'est traduit par des retards de dépistage, pas forcément à l'hôpital d'ailleurs, retard de dépistage, retard de prise en charge. On ne voulait pas accentuer les choses et ça reste quelque chose d'important. On évoquait l'une des raisons pour lesquelles il faut contenir le virus plus bas, c'est pour qu'il y ait moins de victimes du Covid et moins de victimes d'autres choses.
Sur
la troisième chose, je ne sais pas vous dire.
Parce que la Ligue contre le cancer chiffre, c'est terrible à dire, mais chiffre le nombre de décès liés à ces déprogrammations. Donc on voulait savoir si vous aviez vous aussi une évaluation.
Alors je crois
4 à 8 000 morts supplémentaires en France d'ici à 2025.
Alors la Ligue contre le cancer, ça n'est pas forcément lié aux déprogrammations, c'est aussi lié au fait que les personnes sont allées moins dans les centres de dépistage ou se faire dépister en disant « je ne sors pas de chez moi ». Ça n'est pas uniquement la déprogrammation, mais c'est un effet important et nous comptons mettre les bouchées doubles, si je puis dire, pendant l'année 2021 pour être plus performant l'ensemble du système de santé en matière de dépistage. Si je peux donner des choses quelquefois qui sont positives. Il y a eu des grands progrès pendant cette période. L'un des progrès considérables, je pense qu'il y a un an, vous m'aurez interrogé sur la coupure entre l'hôpital d'un côté, les médecins de ville de l'autre. Là, pendant la crise, on a travaillé la main dans la main, on a mis en place les mêmes systèmes ensemble, on va travailler de plus en plus. À partir du début de l'année, on aura un système médecine de ville, hôpital, pour les patients qui appellent pour les urgences, pour pouvoir les orienter plus rapidement. Donc, on a des choses qui se sont accélérées. On peut suivre les patients à domicile bien plus qu'auparavant. On a 850 000 patients qui ont pu être restés à domicile, suivis soit par leur médecin de ville, soit par l'hôpital. Donc, pendant cette période-là, se sont forgées des réponses solides dont j'espère qu'elles apporteront et qu'elles permettront effectivement de mieux soigner et de mieux prévenir.
On a une aspiration positive.
Oui, on
en vient
à la
vaccination qui est positive.
Aussi, dans la vaccination. Les prochaines semaines.
C'est positif.
Est-ce que vous appelez à la vaccination du personnel soignant dans les premiers publics? Puisque aujourd'hui, ils ne sont pas prioritaires et ils ne sont pas dans la première vague des vaccinations.
Là aussi, on va raisonner en gardant l'ordre et en ne mettant pas de cacophonie. Il y a dans ce pays des autorités qui définissent les priorités de vaccination. Elles ont défini comme première priorité les personnes âgées, dans des hébergements, on en a certains chez nous, on appelle ça les unités de long séjour, sont des patients qui restent un an ou deux ans.
Le plan
et
du
donc,
gouvernement.
On est en train de mettre les bouchées doubles pour que ça puisse être en place le plus rapidement possible.
Ça sera quand?
Ça sera comme ça a été annoncé par le Premier ministre, avant la fin de l'année.
Décembre.
Probablement autour du 27 décembre, si d'ici là, l'autorisation de mise sur le marché a bien été accordée. Nous, on a le congélateur moins 80 prêt pour cela.
Vous en avez combien des super congélateurs pour
Nous, on en a un gros.
Voilà. Ah, ça suffit,
on en a un gros, ça va suffire pour le début. Et puis, les équipes soignantes en capacité de faire une visite médicale. on fait les choses vite, mais sans bousculade et sans précipitation.
Par exemple,
on ne va pas vacciner les gens contre leur gré.
Alors justement, quand même la moitié des soignants seulement aujourd'hui à la PHP qui sont vaccinés contre la grippe saisonnière.
Un peu moins même, malheureusement.
Même moins. Ce sera pour le Covid? Est-ce que ça sera, à votre avis, moins que cela, puisque les appréhensions sont encore plus fortes? Combien pensez-vous qu'il y aura de soignants vaccinés qui accepteront d'être vaccinés contre le Covid? Et est-ce qu'à un moment donné, il faudra en venir à une vaccination obligatoire?
Alors, je ne pense pas qu'il faille passer par la vaccination obligatoire. Je suis comme beaucoup de personnes qui pensent que la question de l'obligation ne se pose pas aujourd'hui. Et je préfère la conviction à l'obligation. Les soignants, je disais tout à l'heure que les soignants étaient des gens comme les autres, ils peuvent avoir les mêmes réticences et les mêmes inquiétudes que le reste de la population. C'est pour ça qu'on travaille avec eux à leur donner accès, eux aussi, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient manipulateurs radio, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient médecins, aux mêmes informations que les autres. On fait toutes les semaines des réunions, ils ont accès aux différents experts, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Mmh. Ah. Mais si je reprends, moi je considère, je faisais partie de ceux qui, il y a 6 mois, pensaient qu'on n'irait pas aussi vite sur la vaccination. Je me suis gouré et je suis content de m'être trompé. Ça a été rapide et je pense qu'on peut se réjouir d'avoir des vaccins qui vont probablement, très probablement, être disponibles en France et dans les autres pays européens avant la fin de l'année. Avec des résultats qui se traduisent par deux choses. Un, effectivement, une grande efficacité. Quand on regarde le groupe qui a eu le vaccin par rapport au groupe placebo, ils sont beaucoup moins nombreux à avoir eu le Covid, beaucoup moins nombreux à avoir des formes graves. Et quand on regarde les effets indésirables, il y a un peu plus de ces effets de réactogénicité, c'est-à-dire, vous savez, quelquefois, quand vous avez un vaccin, vous avez mal à l'épaule, vous pouvez avoir un peu de fatigue, un peu de fièvre, un peu, etc., qui sont des choses qui peuvent durer quelques jours, mais on n'a pas vu d'effets indésirables très graves sur ces populations de quelques dizaines de milliers. Du coup, on s'organise pour, quand on va passer à quelques centaines de milliers, repérer s'il y a certaines sous-population parce qu'ils ont telle maladie ou telle autre chose sur laquelle ils devraient avoir des précautions particulières. Mais l'arrivée des vaccins est une bonne nouvelle pour les soignants, pour les gens à risque, pour tout le monde.
Est-ce que vous avez déjà reçu des doses là, à l'heure où nous parlons?
On ne recevra pas de doses avant que l'autorisation mise sur le marché va.
D'accord.
Et par ailleurs, s'il vous plaît, ne soyons pas à la course au jour près et à compter, etc. Vous ne pouvez pas à la fois nous demander d'être...
Les Français sont impatients, ils voient que dans les pays européens, vaccination a débuté.
Oui, mais ils sont impatients, mais ils sont à la fois impatients et conscients. On ne va pas bypasser, on ne va pas s'épargner le fait qu'on fait une consultation médicale auparavant, on recueille le consentement, on fait les choses sérieusement. Il n'y a pas besoin de se bousculer. Ça va vite, ça va beaucoup plus vite que prévu. Et tant mieux, mais on fait les choses sérieusement.
On ne confondra pas vitesse et précipitation. Exactement. Vous a entendu. Question express.
Le grand jury. Question express.
Martin Hirsch, pour ou contre un passeport vert pour faciliter les déplacements de ceux qui auront été vaccinés?
Contre en ce moment.
D'accord. Pour ou contre un confinement contraint pour les malades du Covid?
Alors, contre le fait d'être totalement contraint, comme dans des pays où on n'est pas très respectueux des libertés, mais pour que la responsabilité, pour qu'on s'engage à respecter effectivement l'isolement et pour qu'on facilite l'isolement des personnes.
Dit pour ou contre Martin Hirsch, la vaccination de l'exécutif, des ministres, du Premier ministre, du Président, à titre d'exemple?
Pour, quand ça sera leur tour.
Voilà. Pas avant.
Pas de passe droit. Pas de passe droit. Et pas de chuchoterie.
Vous attendrez votre tour, par exemple?
Bien sûr que j'attends mon tour. Je ne vais pas aller piquer une dose de vaccin.
Pour les soignants, vous pourriez aussi, la question de l'exemplarité se pose.
Plus ça sera rapide...
On a vu le Premier ministre israélien le faire, par exemple, devant les caméras.
Plus ça sera rapide pour les soignants, mieux ça sera, parce qu'effectivement, ils ont le droit d'être protégés et le droit de protéger leurs patients. Mais on va commencer par les personnes âgées à risque qui sont hébergées dans des établissements.
Martin Hirsch, faire payer les soins à ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner?
Contre.
Pour ou contre la médaille de l'engagement promis par l'Élysée aux soignants? elle a été abandonnée. Est-ce que c'est un regret pour vous? En tous les cas, on n'en a pas entendu parler. Est-ce que vous êtes pour ou contre que cette médaille de l'engagement?
Je ne vois pas de la part des soignants une demande de médaille actuellement.
C'est dit.
Je vois une demande d'effectifs. Je suis pour le fait qu'on mette le plus vite les créations d'emplois. Je suis pour l'accord que nous avons signé avec deux syndicats et avec
la représentation médicale justement.
Pour pouvoir faire avancer les choses et leur donner des conditions de travail qui soient meilleures.
Alors justement,
je suis mille fois pour cela.
Alors, d'ailleurs, on va se battre pour cela. Il y a beaucoup de questions sur votre gestion passée. C'est dans le cadre des questions qui nous ont envoyées. C'est l'heure de questions nettes.
C'est le jury qui se transforme en tribunal à cette heure-ci. Allons-y.
Questions nettes.
Donc bonjour Martin Hirsch. Donc bonjour. Certains internautes vous reprochent d'être à l'origine de la destruction, je cite Gabriel, de l'hôpital. Et pour JM, vous êtes responsable du délitement, là encore, de l'hôpital. La crise du Covid donc, a rendu la situation insoutenable pour le personnel soignant. Est-ce que vous regrettez les coupes sèches qui ont été faites à la PHP?
Juste pour préciser la question de Marie-Pierre Haddad, hein, entre 2018 et 2020, Martin Hirsch, vous avez perdu au total 926 postes dans le cadre plan... Zéro hausse de masse salariale, 772 infirmiers, 9 infirmiers. Et là, vous courez maintenant après les embauches. Il vous manque 1000 postes vacants, avez-vous dit.
Alors moi, je ne regrette pas d'avoir, il y a 3 ans, quand personne ne le disait, dit qu'il fallait augmenter le salaire des infirmières et des aides-soignantes. Hein. Je l'ai dit, je l'ai écrit, à un moment où ça ne faisait pas plaisir, où je me faisais engueuler par le gouvernement de dire et d'écrire cela, qu'il fallait augmenter les salaires. Et j'ai fait cette analyse qu'avec les salaires et le montant de salaire, notamment dans notre région où la vie est chère, on allait à un moment se retrouver. Vous pouvez retrouver, c'est écrit.
Est-ce que là, vous vous dites fait, que du coup, écrit. Vous avez fait...
Et donc je me suis battu pour qu'on puisse augmenter les salaires.
Et pour augmenter les salaires, il fallait couper. Il fallait supprimer des postes.
C'était non, ça, non. Et par ailleurs, et donc, on assiste depuis 18 mois, effectivement, à une difficulté de recrutement. On a renversé la tendance depuis 6 mois. On va continuer à renverser la tendance. Et pour le faire, je pense que si on arrive à signer des accords comme on a réussi cette semaine, à signer des accords en disant, mais écoutez, on peut faire en sorte que ça soit au niveau des équipes, qu'on aménage les horaires pour tenir compte des demandes des équipes, si on fait en sorte qu'on puisse embaucher pour permettre aux aides-soignants de suivre une formation pour devenir infirmier, si on met en place des moyens d'avoir des infirmiers de pratique avancée, voilà, c'est tout cela qu'on est en train d'organiser.
On rattrape le temps perdu. Est-ce que vous n'avez pas perdu, je le disais en introduction de cette émission, est-ce que vous n'avez pas fait le bilan de diagnostic à l'époque? Vous aviez des gens dans la rue, c'était, on s'en souvient tous, au printemps 2019, ça a continué au début de 2020, qui vous disait, attention, il y a trop de... Il y a insuffisamment
de personnel.
Vous m'avez entendu
dire qu'ils ont tort et il ne faut rien faire? Vous m'avez entendu dire ça?
Vous m'avez entendu dire cela?
Mais est-ce sans que, Covid, on n'aurait pas réussi à avoir ce résultat sans Covid? Parce que ce que vous énoncez, ça paraît assez logique.
Je pense que le Covid... le Covid a déclenché les augmentations de salaire du Ségur, et sans le Covid, on ne les aurait pas eues. Voilà. Donc je pense que le Covid a fait prendre conscience à tout le monde que ce problème qu'on était certains à voir... quelques-uns à voir, étaient vus par tout le monde et qu'on ne pouvait pas à la fois les applaudir et leur dire « ayez des salaires trop faibles voilà. ». Donc on a commencé à augmenter les salaires grâce au Ségur, tant mieux. Et si le Ségur est l'enfant du Covid, ça montre que le Covid peut avoir aussi des effets de prise de conscience de choses. Et dans ce cas-là, tant mieux.
Et 12 000
Est-ce qu'il faut continuer la réponse oui.
Oui. 12 000 lits supprimés depuis 1992, hein, vous n'êtes pas le seul en cause. Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu un manque d'anticipation? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de vista?
Mais il y a probablement des manques et des choses qu'on a ratées, et d'autres qu'on a bien faites. Mais si je reprends la question du nombre de lits, tout ne se traduit pas en nombre de lits. Donc il y a moi, je trouve bien plus grave la coupure qu'il y avait entre l'hôpital et la médecine de ville que de compter le nombre de lits. Et je redis, pendant la crise de cette année, le sujet n'était pas de trouver des lits, était de trouver des personnels. C'est pour ça que j'estime que de dire que la priorité numéro un sur l'hôpital, c'était pas d'inventer des lits, mais c'était de mieux payer les soignants pour qu'effectivement ils puissent faire le travail, qu'ils aient envie d'y être et qu'ils aient envie de faire. Et c'est la direction dans laquelle on est, et c'est là qu'on accélère. Et que la bonne ligne pour cela, c'est pas de le faire unilatéralement, mais de donner des possibilités, ce qui a été donné par le Ségur à l'hôpital de négocier. Moi, c'est la première fois.
Vous avez trouvé des soignants et vous trouvez des soignants.
Ça fait 7 ans que je dirige l'assistance publique. C'est la première fois que j'ai des choses à donner au moment où je négocie. Avant, j'avais rien à donner. Là, j'ai pu travailler et donner, et j'ai eu face à moi des gens responsables, y compris des responsables syndicaux qui avant étaient permanents, ont remis la blouse quand il s'agissait du Covid, parce que on a tous changé.
On a tous changé, on a tous été transformés par le Covid, on a tous considéré qu'il ne fallait pas faire exactement comme avant et qu'il fallait faire différemment, et on a tous envie de se battre pour que le système de santé soit debout, qu'il aide le plus possible les patients, qu'il vous aide, qu'on arrive à avoir ces différents défis et qu'on arrive à convaincre les Français à la fois d'avoir confiance dans le vaccin et de faire attention pendant les vacances de Noël et pendant tout ça. Voilà, vacances de Noël, le jour de l'an.
Tout ça, Noël, on s'y perd. Merci Martin Hirsch. Une question nette, mais qui a permis de répondre à beaucoup d'autres questions. Très bonne fête à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 3 janvier.